Ouais, bon, on fait comme ça, d'accord. On va continuer donc notre méditation, notre étude dans l'évangile de Marc, avec un texte aujourd'hui qui est un très beau texte. On a pris la décision avec les anciens de fusionner en fait deux sections qui avaient été initialement découpées. Donc je remercie Jean-Lionel de m'avoir cédé sa partie. On verra qu'il y a une unité dans ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de vous inviter à ouvrir vos Bibles, le texte ne sera pas affiché à l'écran, donc ouvrez vos Bibles dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Et avant ça, j'aimerais... j'ai la télécommande là, non? Ah, mais c'est l'Apple TV? Ah, d'accord, ok, c'est moi qui commande alors, super. Ah ben voilà, on va le tout de suite. Voilà, impeccable. J'aimerais poser une question à l'Assemblée. Qui d'entre nous peut se retrouver dans cette citation qui est affichée là? Levez la main. Qui peut se retrouver dans cette citation? Bon, la moitié de la salle, donc vous n'êtes pas venu pour rien déjà, parce que le texte du jour va vous faire beaucoup de bien, comme il m'a fait énormément de bien aussi. Donc, on va lire dans ce passage de l'évangile de Marc, à partir du verset 21 du chapitre 5. Je lis dans la version de la Colombe, qui est plus littérale. On verra pour ce texte, il faut qu'on soit près du texte pour bien comprendre. Verset 21. Donc Jésus regagna en barque l'autre rive. Hein, je vous rappelle la dernière fois, il était à Gadara, il a guéri un démoniaque, hein, il a envoyé les démons dans un troupeau de porcs qui s'est noyé ensuite. Et donc, après cette courte incursion dans le territoire des Géraséniens, des Gadaréniens, Jésus revient. Donc il regagna en barque l'autre rive et une fois de plus une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus qui le vit, se jeta à ses pieds et le supplia instamment en disant « Ma fillette est à toute extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Et on va prendre au verset 35. Il parlait encore lorsque survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître ?» Alors, en toute logique, le texte devrait continuer comme ça. Jésus arrive, Jaïrus se jette à ses pieds et hop, il s'en va et là arrive donc la mauvaise nouvelle. Mais, en fait, le texte n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit a inspiré Marc différemment. Et on va reprendre, donc là je vous ai fait une petite diversion, on va reprendre à partir du verset 25, « Or, il y avait une femme », et le « or » ici est important pour comprendre ce texte, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage, au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore lorsque survint de chez le chef de la synagogue des gens qui lui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Sois sans crainte, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit, « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talita kumi », ce qui se traduit « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils en furent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Jésus leur fit de vives recommandations afin que personne ne le sache, et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Amen. Voilà donc un texte, un très beau texte qu'on va essayer de commenter. Mais avant cela, je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous ouvrons ta parole, cette parole qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant qui pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Seigneur, que cette parole puisse toucher les cœurs de chacun, le mien et celle de mes frères et sœurs, afin que nous puissions la comprendre et la mettre en pratique pour mieux te servir et pour mieux t'être soumis. Amen. Voilà, donc le titre, le serviteur victorieux de la maladie. Alors effectivement, il y a deux maladies dans ce passage qu'on a regroupé, mais le message clé ici, c'est pas la maladie en elle-même, parce que sinon on va tomber dans certains excès du monde évangélique, qui a créé des ministères de guérison, qui se focalisent sur la guérison. Et je pense que la guérison ici, c'est certes une chose extrêmement importante, il y a même une résurrection, mais ce n'est pas ça le clair du texte. Donc ce que je vous propose, on va regarder rapidement ce que dit ce texte, on va faire ce qu'on appelle l'exégèse. Ensuite, on va essayer de se mettre dans les chaussures de Marc pour comprendre quel est le message que le Saint-Esprit veut nous transmettre. Ça, c'est l'interprétation du texte. Et puis, on va comprendre qu'est-ce que Jésus veut faire passer comme message là-derrière. Et puis, on en tirera des applications pour les protagonistes de cette scène, mais également des applications pour nous. Et enfin, je terminerai avec 7 leçons majeures à tirer de ce passage. Et on va voir que ce texte est d'une richesse inouïe, donc je vais me focaliser vraiment sur l'essentiel du message. Alors il y a des choses qui ne seront pas commentées, qui ne seront pas expliquées, mais on va se focaliser sur l'essentiel du message. Et j'aimerais vous suggérer, pour ceux qui le peuvent, de prendre des notes, parce que le texte est très riche, il y a des choses très importantes, et si vous prenez des notes demain ou dans la semaine, vous allez pouvoir les méditer, et ça va vous faire du bien, cette parole va tourner dans votre tête, et ça va vous faire du bien, parce que lorsque la parole est ouverte, en fait, c'est pas moi qui vais parler, moi, ce que je vais dire, c'est pas important, ce qui est important, c'est ce que dit la parole, et la manière avec laquelle la parole touche vos cœurs. D'ailleurs, les ados, on les encourage ils ont une série de questions à chaque fois qu'ils assistent au culte et au message. Ils ont une série de questions auxquelles ils répondent et donc ils doivent suivre et ils doivent prendre des notes. Voilà, si les ados le font, je pense que tout le monde peut le faire. Voilà, alors cet épisode donc, de cette femme atteinte d'une perte de sang, elle est décrite comme prise en sandwich entre l'épisode de Jaïrus. Une première étape où Jaïrus vient et puis il y a une deuxième étape où Jésus va suivre Jaïrus dans sa maison. Alors, ce passage est raconté de manière identique dans les 3 évangiles synoptiques, c'est-à-dire Marc, Luc et Matthieu. Donc, le parallèle, c'est en Matthieu 9, pour ceux qui prennent des notes, et en Luc 8, en sachant que l'évangile de Marc, c'est le premier évangile qui a été écrit, et certains commentateurs pensent que Marc a été l'inspirateur un petit peu de cet épisode, et que Matthieu et Luc se sont inspirés de lui. Et d'ailleurs, paradoxalement, dans ce passage, Marc, qui est l'évangile le plus court, qui est le plus synthétique, vous savez, il est un peu taillé à la hache, il y a vraiment l'essentiel, Marc, c'est celui qui donne le plus de détails sur cet épisode-là. Donc c'est normal, c'est la forme de l'évangile de Marc. D'ailleurs, dans Marc, il y a moins de miracles décrits, mais ils sont décrits toujours un peu plus en détail, et ce texte ne déroge pas à la règle. Alors, où est-ce que cette scène se passe? On est donc on est de retour du pays de Gadara. Il se passe donc dans la rive ouest du lac de Galilée et dans la région de Capernaum. C'est la base arrière de Jésus. C'est là où il a exercé son ministère initial avant d'aller à Jérusalem. Je n'affiche pas de carte parce que je pense que vous le savez. Alors, quels sont les acteurs de ce passage? Bon, premièrement, il y a Jésus. Jésus, c'est l'acteur principal. On ne va pas se focaliser sur lui aujourd'hui. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les paroles qu'il prononce, sa manière d'encourager. Mais je ne vais pas insister là-dessus. Simplement pour dire que Jésus, Il a une vie intentionnelle, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait dans l'évangile a un sens. Il a un but. S'il va à Gadara, c'est pour un but. Quand il va rencontrer la femme samaritaine, hein, l'évangile nous dit, il fallait qu'il passe par la Samarie. Donc, les déplacements de Jésus sont stratégiquement planifiés. Il sait pourquoi il le fait, il sait pourquoi il va à Gadara, il sait pourquoi il revient. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard. Il n'y a pas une femme qui se promène comme ça, qui dit, tiens, au fait, Jésus est là, j'ai lu ça sur Facebook et je vais y aller. Non, non, la femme, c'est très intentionnel. Et ça, c'est un modèle pour nous aussi. C'est-à-dire que, est-ce que nous, on vit au gré du vent, jour après jour, ou est-ce qu'on a une vie intentionnelle, comme Jésus ? C'est-à-dire, on sait pourquoi on va faire telle chose, on sait pourquoi on va exercer notre don de telle manière. Vous voyez, c'est une question déjà qu'on peut se poser par rapport à Jésus, parce que vous allez voir que tout ce qui se passe dans ce passage, ce n'est pas le fruit du hasard. Tout est planifié, parce que Jésus est assis sur le trône, il contrôle toute chose. Alors, il y a Jésus, il y a les disciples qui sont là. Hein. Il ne faut pas oublier que les disciples, Jésus a dit en Marc 3, il les prie pour être avec lui et pour les envoyer en mission. Et ça, on verra au chapitre 6, il va envoyer les disciples en mission. Mais avant d'envoyer les disciples en mission, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut les former, il faut qu'ils apprennent des choses. Donc Jésus est intentionnel, il a ses disciples avec lui, il profite de la moindre occasion. Hein, on dit souvent, quand on élève des jeunes enfants, voilà, quand on mange avec eux, quand on vit avec eux, ben, on prend les circonstances qui viennent, ils rentrent de l'école, il s'est passé telle chose, c'est une occasion d'enseigner. Jésus fait comme ça avec ses disciples. Alors il y a les disciples, il y a la foule elle est toujours plus nombreuse, elle presse Jésus. Hein, il peut plus bouger, il ne peut plus respirer Jésus, tellement il est pressé. Hein, parce que la foule, elle est avide de miracles. Hein, comme disait Hérode à Jésus, fais-nous un miracle. D'accord ? Ou les pharisiens, fais-nous un miracle pour nous montrer qui tu es. Mais Jésus, il n'est pas là pour faire du spectacle. Il n'est pas là pour épater la galerie. Il a toujours, comme je vous ai dit, une intention et un but précis, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puis donc, il y a les deux acteurs principaux, la femme et Jaïrus. Donc on a vu les acteurs. Et donc, dans ces deux protagonistes, on va insister un peu plus là-dessus, ils ont des points communs et des différences. Et là, on va, encore une fois, je vous ai dit, l'attitude de Jésus est vraiment exemplaire, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux acteurs ? Premièrement, ils ont peur. Ils ont peur. Alors, ils ont peur de quoi ? Jaïrus, il a peur de perdre sa fille. Le texte nous dit... la fille, elle est à toute extrémité, c'est-à-dire elle est à deux doigts de mourir, on dirait. Hein. Mais il peut perdre autre chose, Jaïrus. Il ne faut pas oublier, c'est qui ? C'est le chef de la synagogue. Hein. C'est le chef de la synagogue et il pourrait perdre sa réputation, il pourrait être exclu de la synagogue. Parce que qu'est-ce qu'il fait ? Il vient rien de moins que se prosterner aux pieds de Jésus. Hein. Jésus était persona non grata auprès des autorités religieuses, partout où il passait. Hein. Et d'ailleurs, juste après, on le verra dans les études suivantes, à Nazareth, il est à deux doigts de se faire précipiter de la falaise. Donc, Jésus n'est pas apprécié, d'accord ? Et donc, Jaïrus prend un gros risque. Et d'ailleurs, Matthieu, dans son texte, c'est intéressant parce qu'il nous donne un détail supplémentaire. Matthieu nous dit que après sa conversion, il invite beaucoup de monde à un festin. Il y a des pharisiens, tout ça, qui viennent, qui discutent avec lui. Et Matthieu nous dit que c'est à ce moment-là que Jaïrus arrive. Donc, on pourrait croire, d'après Marc, on pourrait croire que Jésus débarque de la barque de la traversée et tout de suite, Jaïrus se précipite. Et Matthieu nous donne ce détail supplémentaire, c'est intéressant. Donc Jaïrus, il a peur de perdre plein de choses, sa fille, sa réputation. Et puis la femme, elle a peur de perdre quoi ? Ben, elle a peur de perdre sa santé et puis presque que son mal est en train d'empirer, elle a peur de mourir. Et puis aussi, une deuxième peur, hein, c'est très important, on reviendra sur la peur. C'est une émotion importante. Elle a peur de se faire lyncher. Pourquoi ? Parce que cette femme est impure. Hein. Dans le livre du Lévitique, on lit au chapitre 15, toute femme impure qui touche quelqu'un, le quelqu'un, il est impur jusqu'au soir. Donc vous imaginez, dans la foule, tout le monde vous presse, elle a dû rendre impure des centaines de personnes. Donc elle pourrait se faire lyncher si les pharisiens la découvrent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est toute tremblante. Hein, elle va rendre plein de gens impurs. Et voilà, donc cette émotion de peur habite nos deux protagonistes. Ensuite, la deuxième chose... Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, on a deux personnes qui sont désespérées. deux personnes qui sont au pied du mur. Hein. Il y en a une qui a passé 12 ans, qui a dépensé tout son argent, et l'autre qui est en train de perdre sa fille chérie, d'accord, qui, c'est sa fille unique, hein, nous dit un passage, pas ici je crois, mais je crois que c'est dans Luc, où il est dit que c'est sa fille unique. Troisième chose qu'on peut dire sur ces deux protagonistes, c'est des gens qui ont la foi. Ils prennent beaucoup de risques, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, mais ce sont des gens qui ont la foi pour trouver la guérison au pied de Jésus. Jaïrus se jette immédiatement au pied de Jésus pour demander une imposition des mains en vue de la guérison. Et la femme, elle, vient toucher les vêtements de Jésus en étant sûre d'obtenir la guérison. Et ensuite, elle va se jeter à ses pieds. Donc deux personnes qui ont la foi suffisante pour venir à Jésus et toucher Jésus. Et ça, c'est un des éléments clés qu'on va souligner. Ensuite, ce sont des personnes qui sont exaucées. Hein. Jésus répond à leur prière. Jésus est tout-puissant. Il répond à leur prière. Et enfin, le cinquième point, non moins important, ce sont des personnes qui sont dans la vérité. C'est-à-dire que Jaïrus, il refuse de jouer les hypocrites à la synagogue pour faire plaisir aux pharisiens, pour se faire aimer des pharisiens, pour se faire aimer de tout le monde. Il ne cherche pas la popularité, hein, c'est le deuxième ou le troisième P de Gérard Roarot, pour ceux qui étaient au week-end d'église. D'accord ? Donc, il refuse de ça, il refuse de se laisser happer par l'ambiance de la synagogue, hein, cette ambiance anti-Jésus. Et puis, la femme, eh ben, à un moment donné, elle déballe tout ce qu'elle a à dire. Ce n'est pas facile, il a fallu du temps, il a fallu une pédagogie spéciale de Jésus, on le verra tout à l'heure, mais elle vient déballer un petit peu tout ce qu'elle a à dire, tout ce qu'elle a sur le cœur. Donc deux personnes qui sont dans la vérité. C'est très important ça, parce qu'aujourd'hui, je t'ai en train de réfléchir ces jours, on est vraiment dans un monde qui n'est plus dans la vérité. On ne sait plus du tout où est la vérité. Tout est relatif, les fake news, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous voyez, tu citais là les mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui vous disent il y a 471 personnes qui sont mortes dans le bombardement de l'hôpital et d'autres qui disent 50. Bon, même 50, c'est trop. Mais vous voyez, il y a tellement d'écarts au niveau des informations. Il y a tellement un manque de vérité qu'on a besoin, nous, chrétiens, on a besoin d'être dans la vérité, de pouvoir se dire la vérité, de pouvoir se baser sur la vérité de la parole de Dieu. Et là, on a des exemples. On a deux personnes qui sont dans la vérité, qui refusent d'être hypocrites, hein, et qui sont cash avec Jésus. Ils viennent aux pieds de Jésus, ils prennent tous les risques, ils ont gros à perdre, mais ils ont aussi gros à gagner, parce que quand on prend des risques pour Jésus, hein, on a gros à gagner. Donc ça, c'est les points communs. Il y a quand même des différences, hein. Il y a quand même des différences. Alors Jaïrus, lui, c'est un homme important. Hein, d'ailleurs, il est nommé par son nom. Il n'y a pas beaucoup de gens. Si vous réfléchissez bien, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont nommés par leur nom. En dehors de Jésus, de Jean-Baptiste, des disciples, il y a quelques personnes, quelques rares personnes, mais c'est souvent une femme, un homme, des anonymes. D'accord ? Donc Jésus, ça veut dire que Jaïrus, il a une importance. Si on lui donne un nom, c'est peut-être pour qu'on se souvienne. Ah, Jaïrus, oui, qu'est-ce qu'il a fait ? Et peut-être vous sortirez de cette salle et vous direz « Ah, Jaïrus, ça peut être un modèle pour moi, pour telle et telle raison, dans toutes ces caractéristiques que je suis en train de vous parcourir. » Donc c'est un des responsables de la synagogue. C'est un homme qui nageait dans le bonheur. Pour ceux qui ont des enfants, qui ont des petites filles, moi j'en ai une, j'ai de la chance. Pour ceux qui ont des enfants, pendant 12 ans, il a vécu le bonheur avec sa fille. Et là, il est en train de vivre un malheur. Parce qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas les antibiotiques, on ne sait pas ce qu'elle a, mais elle est à deux doigts de mourir. D'ailleurs, la mauvaise nouvelle arrive très vite. Et Matthieu, comme il est très synthétique dans son évangile, Matthieu télescope tout ça et il dit, Jaïrus arrive et dit, ma fille est morte. Vous voyez, directement. Mais bon, Marc est beaucoup plus précis. Hein. Il y a une première étape où il vient au pied de Jésus, il a encore un espoir. Et après, l'espoir est anéanti parce que les amis arrivent en disant, ma fille est morte. Et là, il y a une deuxième étape, et vous verrez que c'est intentionnel, tout ça. Donc, il sombre dans la valeur. Ma fille est à toute extrémité. Et sa foi initiale, qui l'a amenée au pied de Jésus, a bravé la perte de réputation, elle est ébranlée. Elle est ébranlée parce qu'à un moment donné, il a accédé à Jésus, il y avait une foule, il aurait peut-être pu ne pas le toucher. Vous savez, de temps en temps, on veut accéder à quelqu'un, et on n'y arrive pas parce qu'il y a trop de monde. Si vous vous êtes promené à Lyon le 8 décembre, vraiment le 8 décembre, vous faites la rue de la République pour aller place des Terreaux, parfois on ne peut pas y aller parce qu'il y a trop de monde. voyez, de temps en temps, on ne peut pas passer. Donc là, il y arrive, il est au pied de Jésus, il se dit, ça y est, pff, je suis sûr que Jésus va me guérir, c'est déjà beaucoup de fois. Et là, paf, les gens arrivent et disent, ta fille est morte. Et là, catastrophe, parce que autant Jésus a guéri plein de malades, autant des résurrections, il n'y en a pas beaucoup dans la Bible. Quand vous comptez les résurrections, ça se compte sur les doigts des 10 mains, je n'ai pas le temps de les détailler. Voilà, donc sa foi est ébranlée, notez bien ça. Pourquoi importuner le maître ? Ta fille est morte. Et alors là, il prend un coup sur la tête. Oh mince ! Moi qui croyais que Jésus pouvait la guérir, ça y est, elle est morte. Tout est perdu. Ça ne vous arrive pas de temps en temps. Vous avez la foi. Hein ? Ça dure. Vous tenez bon, vous dites, ça y est, ça va, je vais m'en sortir. Et paf, ça retombe. Un peu comme Joseph. Il est vendu. Bon, il se dit, mince, je vais peut-être m'en sortir, je vais peut-être sortir de la citerne. Non, il descend en Égypte. En Égypte, hop, il est chez Potiphar. Ah, super, ça va un peu mieux, puis j'ai la bonne cote auprès de Potiphar. Pan, il se retrouve en prison. En prison, il croupit en prison. Ah, ça y est, il y a les chansons, il va parler de moi. Paf, encore, il en reprend pour 2 ans. Vous savez, de temps en temps, on a la foi comme ça, hein, qui, d'épreuve en épreuve, c'est dur, hein. Et Jésus va pousser plus loin la foi de Jaïrus. Il va aller jusqu'à permettre la résurrection et il va retourner la situation. Ne crains pas, crois seulement. C'est vraiment des phrases clés qui doivent résonner aujourd'hui. Ne crains pas, crois seulement. Jésus dit à Jaïrus, mais il le dira à d'autres personnes aussi. Passons à la femme maintenant. La femme, elle, c'est une petite, une insignifiante, une anonyme. Elle n'est même pas nommée, on ne sait pas son nom. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a une perte de sang, hein, c'est une maladie grave, hein, 12 ans de perte de sang. Donc pour elle, selon Lévitique 15, il fallait attendre 7 jours d'arrêt pour pouvoir reprendre une vie normale. Ça veut dire que c'est une femme qui est privée de vie sociale. Elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas aller à la synagogue, elle ne peut pas prier, elle ne peut rien faire. Elle est dans une détresse croissante depuis 12 ans. Elle avait peut-être un peu d'argent, mais elle a tout dépensé, elle est allée voir des médecins et son état s'est aggravé. Et là, on a une belle métaphore de ce qu'est le péché. Parce que cette maladie, quelque part, elle représente le péché. Un péché qui n'est pas traité, c'est quelque chose qui s'aggrave. Ça ne peut pas s'améliorer. Il n'y a pas de médecin pour guérir le péché. Il n'y a que Jésus qui peut. On l'a chanté tout à l'heure, on en a parlé au cours de la scène. Venir au pied de Jésus et recevoir le pardon de ses péchés. Il n'y a qu'une seule manière de traiter la maladie du péché. Et donc cette perte de sang qui dure depuis 12 ans, hein, vous avez remarqué le parallélisme, 12 ans de bonheur pour Jaïrus, 12 ans de difficulté pour la femme. Ce n'est pas un hasard non plus. Est-ce que cette femme a pu enfanter ? On ne sait pas son âge, mais bon, 12 ans de perte de sang, on ne peut pas enfanter. Et puis, est-ce qu'elle a toujours un mari ? Parce que quel mari resterait 12 ans avec une femme impure, qui ne peut pas enfanter, qui ne peut pas donner ce qu'on peut attendre d'une relation conjugale ? Qui resterait avec une femme comme ça ? Donc c'est une femme vraiment en détresse, c'est une femme privée de vie sociale, privée de vie religieuse, c'est une exclue de la société. Et on pense tout de suite à d'autres femmes, hein, la femme samaritaine, la femme adultère qui a été exclue, la femme pécheresse au pied de Jésus, la veuve de Naïn qui perd son fils, etc., etc. La femme qui a oint les pieds de Jésus avec son parfum. Donc toutes ces femmes anonymes qui étaient en détresse, ce sont des femmes qui ont trouvé le réconfort au pied de Jésus. Et on ne connaît même pas son nom. Alors selon l'historien de l'Église Eusèbe, c'est un historien qui a vécu au IIIe siècle, Eusèbe pense que cette femme vient de Césarée de Philippe. Je ne sais pas si vous connaissez Césarée de Philippe, c'est au nord d'Israël. Il y a un événement majeur qui s'est produit à Césarée de Philippe, c'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à Césarée de Philippe ? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça vous dit quelque chose ? C'est là où Pierre a confessé. D'accord ? Donc Césarée de Philippe, c'était complètement au nord. Alors, Eusèbe a retrouvé à Césarée de Philippe une statue d'une femme à genoux qui tendait ses mains vers un jeune homme. Je vous le dis, ce n'est pas un texte inspiré, mais il est possible qu'elle soit de Césarée. Ça veut dire que c'était une païenne où bon, c'était encore le territoire d'Israël, mais complètement au nord. C'était des territoires qui n'avaient pas été influencés par la révolution asmonéenne. Ça vous dit quelque chose? Là, c'est le chef, en moins 70 avant Jésus-Christ. Progressivement, hein, la Palestine qui était occupée, progressivement, elle s'est judaïsée. Judas Maccabée, hein, la révolte des Maccabées. D'accord? Donc ça a fait tache d'huile en Samarie, et puis ce n'est pas allé jusqu'au nord, puis ce n'est pas allé jusqu'en Décapole. C'est pour ça que Jésus va en Décapole pour guérir le démoniaque. Il est en territoire étranger. C'est le pays d'Israël tel qu'il a été donné initialement, mais à l'époque, il n'était pas judaïsé à nouveau suite à la colonisation grecque d'Alexandre le Grand. Voilà, on y reviendra parce que je dois traiter un peu avant Noël le passage de Marc où Jésus part à l'étranger. Donc je vous en reparlerai un peu plus. Alors, qu'est-ce que cette femme va faire? D'accord? Donc cette femme a beaucoup de peur également, beaucoup de pensées négatives. Elle aurait pu avoir beaucoup de fausses excuses pour l'empêcher d'avancer. Elle aurait pu se dire, oui, mais ça dure depuis 12 ans, à quoi bon? Je suis une femme, je n'ai pas de place dans la société, j'ai fait confiance à des médecins, ça ne m'a servi à rien. Oh, puis Jaïrus, il est beaucoup plus important que moi. J'étais à deux doigts de toucher Jésus, pan, il y a Jaïrus. Jaïrus est plus important, c'est le chef de la synagogue, il va sûrement me prendre ma place. Vous voyez, elle aurait pu se dire des choses comme ça. Mais le point positif, il est au verset 27, regardez. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler de Jésus. Donc, situation désespérée. Peut-être ce matin, tu es dans une situation désespérée, mais ici, tu es venu et tu as entendu parler de Jésus. Tu as entendu parler de sa mort sur la croix, tu as entendu parler de sa puissance de résurrection et sa puissance de salut. Et d'ailleurs, on l'a vu hein, au chapitre 3 et au verset 10 de Marc, hein, il nous est dit « Tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher ». Donc la femme avait entendu parler de ça. Elle a peut-être fait, si elle vient de Césarée de Philippe, un long voyage pour le toucher spécifiquement. Et elle va élaborer un plan pour s'en sortir. Elle va braver l'interdiction de la loi. La loi interdisait à une femme impure de toucher un homme, de surcroît un rabbi. Et c'est là qu'on voit toute la délicatesse de cette femme. Parce qu'elle se dit, je ne vais pas le toucher lui, mais je vais toucher ses vêtements. Comme elle a entendu parler de Jésus, elle savait qu'on pouvait toucher ses vêtements et qu'on pouvait être guéri. C'est ce qu'elle va faire par un bel acte de foi, malgré tous les obstacles. Et d'ailleurs, ça va faire jurisprudence. Regardez en Marc chapitre 6, verset 56, pour ceux qui suivent et qui ont leur Bible, hein, il est dit « On suppliait Jésus pour toucher seulement la frange de son vêtement ». Donc, vous voyez, au chapitre 3, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher, et en Marc chapitre 6, il nous est dit « Ils viennent toucher le vêtement ». Donc, son acte, il a eu une portée importante. Alors, cet acte de foi produit deux actions que je vais détailler parce que c'est important aussi de comprendre. Deux actions, deux conséquences de son acte de foi. Regardez au verset 34. La première conséquence, donc ça, c'est ce que Jésus va lui dire. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. » D'accord ? Regardez le verset 34. Donc, au verset 34, il y a premièrement une guérison physique. D'accord ? Luc, au chapitre 8, Luc est médecin, donc lui, il s'y connaît en écoulement de sang. Il dit, l'arrêt de sang s'arrêta immédiatement. Ce n'est pas juste un suintement, une interruption. Non, c'est immédiatement. C'est une guérison physique. D'accord ? Et Marc utilise un terme grec qui est le terme IGS. D'accord ? Hein, sois guéri de ton mal. Quand Jésus dit sois guéri de ton mal, il lui dit sois IGS de ton mal. Hein, IGS, ça fait penser à hygiène, donc c'est physique. Hygiéniquement, la femme est guérie. D'accord ? Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il y a une guérison spirituelle et intérieure, et c'est ce qu'on appelle le sozo. D'accord ? Le sozo, c'est la guérison à salut. C'est-à-dire, c'est le même mot grec sozo qui est utilisé lorsque l'ange s'adresse à Joseph pour lui dire « Ta femme enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'est lui qui sozo son peuple de ses péchés. Donc, vous voyez, Jésus, dans cet acte de foi, il va l'honorer physiquement, mais spirituellement. C'est une femme qui a une guérison totale, une guérison qu'on appelle guérison à salut. N'oublions pas que le péché est une maladie, c'est un fléau encore plus grave que n'importe quel cancer, n'importe quel écoulement de sang. Il y a des millions d'enfants de Dieu qui sont morts du cancer et qui sont dans la félicité de Jésus maintenant. Et par contre, il y a des millions de personnes qui sont mortes dans leur péché et qui attendent le jugement éternel. Donc, vous voyez, Jésus va opérer ici, face à la foi persévérante de cette femme qui surmonte des obstacles, il va opérer un miracle et une guérison totale. Littéralement, on pourrait traduire le texte par « elle fut littéralement pénétrée d'une sensation de guérison totale ». Elle fut pénétrée dans son être intérieur d'une guérison totale. Je paraphrase le texte original, ce n'est pas le texte de Marc, c'est le texte de Luc, qui est un peu plus précis ici de ce côté-là. Voilà. Donc je passe sur les commentaires dans les autres évangiles. Le plus complet, c'est Marc. Vous voyez, ma fille, donc il y a vraiment un terme, Jésus qui accueille cette personne dans son royaume, quelque part dans sa famille. Et puis il y a un double salut. Et pour Jairus, c'est le même processus. D'accord, il va lui dire « Sois sans crainte, crois seulement, d'accord, c'est la foi, et ta fille sera sozo. » Pareil, ta fille sera sauvée, mais dans sa globalité, corps, âme et esprit. Voilà, je ne m'attarde pas plus là-dessus parce qu'on n'a pas le temps. Malheureusement, il y aurait pas mal de choses à dire. Alors, ce texte pose quand même pas mal de questions. J'en ai retenu trois importantes. La première question, c'est pourquoi est-ce que ces deux récits sont imbriqués ? À quoi ça sert ? Pourquoi est-ce que Marc va les regrouper ? J'ai fait exprès, quand j'ai lu, de sauter pour revenir, pour que ça vous marque. Ces textes sont imbriqués. Pourquoi est-ce qu'ils sont imbriqués ? Marc, il aurait pu raconter l'histoire de Jairus et l'histoire de la guérison, ça aurait été pareil. Mais là, il y a une intention, parce que la Bible est précise, Marc nous dit qu'il y a le « or ». Et c'est quoi, grammaticalement parlant, « or » ? Super, il y a des grammairistes là parmi nous, alors c'est plutôt les vieilles générations, maintenant c'est écriture inclusive, etc. Voilà, c'est or, c'est une conjonction de coordination, c'est le mot grec kai, c'est la conjonction, les deux. On va lier les deux, on va assembler les deux. Pourquoi est-ce que Marc et le Saint-Esprit assemblent les deux ? Vous allez voir, c'est passionnant. Il y a vraiment une intentionnalité. Deuxième question, on peut se poser, mais pourquoi Marc donne autant de détails ? Pourquoi il donne autant de détails alors qu'il est synthétique d'habitude ? Je vous ai donné quelques explications déjà tout à l'heure. Vous avez vu le salut, il ne faut pas juste dire « sois guéri ». Non, il y a vraiment un détail, une précision qui est nécessaire par Marc. Et puis, la troisième question qu'on peut se poser, il y en a plein d'autres certainement que vous vous posez, mais auxquelles je vais répondre, c'est pourquoi est-ce que Jésus insiste tellement pour démasquer l'action de sa femme ? Souvenez-vous que la fille de Jairus est en train de mourir. Tu ferais bien de te dépêcher, Jésus, parce que là, elle est presque en train de mourir. Tu perds du temps. Et Jésus va prendre le temps avec cette femme. Alors, pour répondre à cette question, il faut prendre un peu d'altitude. Il faut élargir notre champ de vision. Et puis, il faut réintégrer le contexte. Alors, je n'ai pas parlé de contexte au début, parce que je voulais le réserver ici. Je pense que c'est important de comprendre le contexte. Ici, ce texte parle de guérison. Et même de résurrection. Et nous savons que Jésus guérit. Dès le début de son ministère, dans l'évangile de Marc, on l'étudie là depuis 3-4 mois, Jésus a guéri un démoniaque, la belle-mère de Simon, beaucoup de malades, un lépreux, un paralytique qui est descendu du toit. Donc des guérisons, il en a fait. Il n'avait pas besoin d'attester son ministère par des guérisons. Il est venu pour guérir. Quand il lit le passage dans la synagogue de Nazareth, il prend le rouleau d'Ésaïe, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc. » Vous connaissez ce passage dans l'évangile de Luc. Donc Jésus avait déjà authentifié son ministère, et c'est là qu'il faut sortir de la guérison, parce que ce texte nous emmène sur la guérison, le sous-titre parle de guérison, mais en fait, la signification est beaucoup plus loin, le passage veut nous dire autre chose, et on va voir cette autre chose, on va interpréter ce texte, qu'est-ce que ce texte veut bien nous dire et à quoi il peut nous servir. Parce que sinon, on va rester au stade de Jésus superstar guérisseur. Jésus guérit, alors comme ça on prend Jésus, et puis tout le monde dit, au nom de Jésus, allez, je chasse cette maladie au nom de Jésus. Puis là, on a des églises, il y a des files de malades qui arrivent tous les dimanches, on leur impose les mains, au nom de Jésus, je te guéris, puis le dimanche suivant, au nom de Jésus, je te guéris. Donc ça veut dire que la guérison, elle est complètement dévoyée. Alors je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, on n'a pas le temps. Mais vous voyez, le but, ce n'est pas juste de sauter sur le premier élément du texte, c'est essayer de voir et prendre un peu de hauteur. Alors, on est ici, si on élargit un petit peu, on est dans un groupe de 4 miracles. Hein. 4 miracles, donc on a vu que Jésus avait maîtrisé la tempête, il a guéri le démoniaque. Et vous voyez, ça rappelle, c'est ce qu'on appelle une structure en chiasme. D'accord ? Les miracles sont disposés comme ça, je ne peux pas trop insister, mais le chiasme est toujours centré sur un élément clé qui est l'élément révélateur. Et l'élément révélateur, c'est Jaïrus. Ça veut dire que Jaïrus, il a quelque chose à nous dire. D'accord ? D'ailleurs, il vole presque la vedette à Jésus. Imaginez, Jésus débarque là, il va pour faire quelque chose, Jaïrus arrive et il arrive à infléchir la direction de Jésus. « Viens, ma fille est malade » et Jésus le suit. Jésus est Dieu, c'est lui qui décide. Ben non, il décide de suivre Jaïrus. Donc il vole un peu la vedette à Jaïrus et puis il lui fait changer ses plans. Et je pense que Marc, il a regroupé ces histoires à dessein parce qu'au fond, il y a 4 protagonistes dans ce passage. Donc il y a Jésus qui est très pédagogue. Et Jésus nous enseigne ici comment avoir la bonne parole bien à propos. Donc je ne m'attarderai pas là-dessus, mais je vous encourage à isoler chez vous. C'est pour ça, si vous méditez le texte, isolez les paroles de Jésus. Regardez ce qu'il dit à chaque personne. C'est vraiment très, très apprenant. Ensuite, il y a les disciples, on l'a dit, les disciples, ils sont en formation. Et d'ailleurs, les disciples ont échoué au premier test. Parce que Jésus, dans la barque, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu la tempête, et ils ont dit, « Seigneur, on périt, mais tu ne te soucies pas, qu'est-ce que tu fais ?» Ça ne vous arrive jamais de dire, « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Là, je ne comprends pas. Tu devrais faire ci, Seigneur. » Et Jésus est obligé de leur dire, « Mais où elle est votre foi ?» Donc les disciples ont lamentablement échoué. Alors, je ne me moque pas d'eux, hein, parce que moi, c'est pareil. Combien de fois j'ai échoué dans la foi à croire certaines choses ? Mais les disciples sont en apprentissage. N'oubliez pas que tout ce qu'on dit là, tout ce que le texte raconte, les disciples, ils sont témoins là. Ils sont en train de s'imprégner de ce qui se passe parce que ça va leur servir pour plus tard. C'est eux qui vont ensuite étendre l'Église. Ils auront besoin de tout ce qu'ils auront vu et entendu. Jean écrira dans sa première épître ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché. Nous vous le racontons. Donc les disciples sont là pour apprendre. Il y a Jaïrus. Le troisième personnage, Jaïrus, il a besoin de voir sa foi naissante se renforcer et sortir de l'influence des pharisiens. C'est ce qu'on appelle la différenciation. La différenciation, c'est la capacité à penser par soi-même, à ne pas être influencé par des influences extérieures qui nous dictent ce qu'il faut faire. Et probablement, les pharisiens, on voit l'exemple dans Jean 9, la guérison de l'aveugle-né, les parents, ils n'osaient pas, ils voulaient croire en Jésus, mais ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. Et Jaïrus, il est allé au-delà de ça. Donc Jaïrus a besoin de voir cette foi naissante, non pas s'écrouler par l'annonce de la mauvaise nouvelle, mais se renforcer. Et Jésus le sait, ça. Et enfin, la femme, peut-être elle est non-croyante, elle a besoin de recevoir le salut au travers d'une confession et de sa guérison totale. Et c'est ce qu'on va voir aussi. Vous voyez, donc, cette histoire, finalement, elle est extrêmement riche parce qu'il y a plein de besoins ici de tous ces personnages. Et c'est pourquoi Marc, le narrateur, va permettre l'imbrication de cette histoire. Je n'ai pas le temps de détailler, mais on va garder l'esprit général. Juste 2-3 éléments sur pourquoi Jésus prend le temps de pousser la femme, de démasquer cette femme finalement. Pourquoi est-ce qu'il prend ce temps ? C'est intéressant parce que là aussi, c'est quelque chose qui va nous servir. Premièrement, je vous l'ai dit, pour ne pas que la femme croie que Jésus est un simple guérisseur. Après tout, elle est venue pour être guérie. Je vais paraphraser, elle a mis une pièce dans la machine et elle reçoit sa canette de Coca-Cola. Jésus, ce n'est pas un serviteur qui est à notre disposition, pour lequel on va sonner la cloche et dire hey, « j'ai besoin de toi, Jésus hein, ». Vous savez ?« Ah, j'ai besoin de toi, Jésus, s'il te plaît, guéris-moi, ou réponds à mes prières ». Puis une fois qu'il a répondu, on s'en va jusqu'à la prochaine épreuve. Jésus, ce n'est pas un distributeur automatique de bénédictions. Jésus est Dieu et il veut la totalité de notre être, il veut notre allégeance, il veut notre soumission, il veut notre adoration. Et Jésus cherche à guérir cette femme complètement. Il ne cherche pas à juste lui donner la guérison. Certains malades, il les a touchés, ils ont été guéris, ils sont partis. Mais là, Jésus sait que cette femme a besoin d'une guérison complète et qu'elle va être utile. Alors, elle va être utile en quoi, cette femme ? Elle va être extrêmement utile. Souvenez-vous qu'elle n'a pas de valeur. Elle est insignifiante. C'est une femme. Elle est impure. Eh bien, il va l'amener à confesser sa foi publiquement, comme lors d'un baptême. C'est un engagement. Il lui demande un engagement public. Il ne veut pas qu'elle reparte dans la honte d'avoir volé la bénédiction. Et Romains 10, vous connaissez ce texte, nous dit « Si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. » Donc cette femme est sauvée. Pourquoi elle est sauvée ? Pas parce que Jésus l'a décidé. Parce que Jésus sait qu'elle va confesser, elle va raconter toute la vérité, tout ce qui s'est passé. Et je ne sais pas combien de temps elle a mis, mais elle a probablement parlé de son impureté, elle a parlé de sa peur, elle lui a tout dit. Et elle a confessé Jésus comme le Fils de Dieu. C'est fantastique ce témoignage. Et puis ce témoignage, il sert parce que Dieu est glorifié. Dieu est glorifié parce qu'il a fait une chose merveilleuse. Et puis le troisième élément, n'oubliez pas que Jaïrus vient de recevoir ou va recevoir la mauvaise nouvelle, la mort de sa fille. Donc il a besoin d'entendre le témoignage de cette femme pour renforcer sa foi en Jésus. Et peut-être ce matin, certains d'entre nous, vous avez besoin de recevoir de Jésus cet encouragement. Peut-être ce texte est en train de vous encourager. Dans votre difficulté, dans votre détresse, vous avez quelque chose qui est lourd sur le cœur. Et là, vous voyez Jésus qui prend le temps, cette femme, il prend le temps de l'amener devant tout le monde, pas pour l'humilier, mais pour l'élever, pour louer son courage et son témoignage. Et Jésus et Jaïrus, n'oubliez pas que patiemment, il a attendu l'interruption. Moi, vous savez, si j'avais été à la place de Jaïrus, ce que j'aurais fait, j'aurais dit, écoute Jésus, cette femme, d'accord, mais tu sais, ma fille est en train de mourir là. Donc peut-être après, non ? Tu ne veux pas le faire après, Jésus ? J'aurais dit ça, moi, à Jésus. Mais Jaïrus, il est patient. Il est patient et sa foi est en train de... Elle est en train d'émerger, elle est en train de grandir. Là, à l'instant où la femme parle, la foi de Jaïrus est en train de monter et il en aura bien besoin. Et puis, la dernière chose, les disciples, je vous l'ai dit, ils sont là. Ils vont avoir des situations, parce que Jésus va les envoyer en mission, Marc chapitre 6, on va le voir. Il va les envoyer en mission, ils vont tomber sur des os, et ils auront besoin de se souvenir du témoignage de cette femme. Donc vous voyez cette femme insignifiante, qu'est-ce qu'elle a comme importance ? C'est vraiment formidable, la pédagogie de Jésus, la pédagogie de Marc, qui nous explique tout ça. Alors, quelques applications rapides. Comment est-ce qu'on peut appliquer ce texte en pratique ? Eh bien, la première application, c'est pour les disciples. D'accord ? C'est ce que je vous ai dit. Les disciples, ils ont une foi chancelante, d'accord ? Voire inexistante. Et je vous dirai tout à l'heure que probablement, moi je pense que la foi, ce n'est pas un curseur. On n'a pas un petit peu de foi, un peu plus, 10%, 20%, 30%. La foi, c'est on-off. C'est jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit. Je pense que c'est ça, la foi. C'est-à-dire que c'est pas on a un peu de foi ou pas beaucoup de foi, c'est un on-off. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand les disciples, plus tard, ça c'est dans Luc, je crois, quand les disciples viennent vers Jésus, il leur dit « Augmente-nous notre foi ». Qu'est-ce qu'il répond Jésus ? Il ne dit pas, écoutez, alors vous avez 10%, pour passer à 20%, il faut faire ça. Pour passer à 30, il faut faire ça. Pour passer à 40, il faut faire ça. Parce que sinon, ça devient du légalisme. C'est des trucs. J'ai appris des trucs. J'ai appris des trucs pour augmenter ma foi. Et Jésus ne va pas répondre à ça. Il dit, si vous aviez de la foi, comme ça, là, comme la graine de moutarde, la plus petite des graines, si vous n'avez rien de foi, vous pouvez déplacer une montagne. Il ne répond pas à leurs questions, mais ce qu'il leur dit, c'est on-off la foi. Vous comprenez ce que ça veut dire on-off ? C'est un anglicisme, oui ? Tout le monde comprend ? Non, je ne sais pas. Voilà, donc les disciples, ils ont une foi chancelante et ils ont peur des circonstances. Je vous l'ai dit, la peur, c'est une émotion générale de l'humanité. Vous, moi, tout le monde. D'ailleurs, Jésus va leur reprocher. Il va leur dire, je fais référence au texte, on révise un peu. Jésus va leur dire, comment n'avez-vous pas de foi ? Alors, la femme, où est-ce qu'il est mon PowerPoint ? Il n'avance plus. La femme, elle a une foi confiante. La foi confiante, c'est la foi qui pousse à s'abandonner. Vous voyez ce petit bébé là ? C'est ça, il est tellement démuni qu'il s'abandonne. Et elle reçoit plus que la guérison physique. Elle reçoit plus que la guérison physique. Je voudrais vous lire un exemple de ce que c'est qu'une foi confiante. Hein. Donc pour illustrer ça, ben, j'ai pris un best-seller, hein, Georges Müller, L'audace de la foi. D'accord ? Pour ceux qui ont le livre, c'est page 77. Je vous lis ce qu'écrit Georges Müller. Donc Georges Müller, on l'a appelé le père des orphelins de Bristol, il a créé des orphelinats. Voici ce que Georges Müller écrit le 28 novembre 1838. Il écrit « La situation est de nouveau très grave. Il y a de quoi déjeuner dans les trois maisons, mais pour le soir, le pain, le thé et le lait manquent chez les petits et les garçons. » Donc ils vont mourir de faim en gros. Dino nous a parlé de la situation grave dans le monde, je pense que ça n'a pas changé. « Nous n'avons jamais été plus pauvres et jamais été aussi pauvres. Nous nous sommes assemblés pour la prière et nous avons exposé nos besoins à Dieu en toute simplicité. Pendant que nous étions en prière, on a frappé à la porte et une sœur est sortie. Après un temps de prière à haute voix, mes deux frères et moi avons continué à intercéder silencieusement. Personnellement, je demandais à Dieu de me faire voir l'issue de l'épreuve. Y avait-il autre chose que je puisse faire en toute circonstance, en toute bonne conscience, que de m'adonner à la prière pour donner du pain aux enfants? En ce cas, qu'il veuille bien me le montrer. Enfin, nous nous sommes relevés, je dis aussitôt, je suis sûr que Dieu nous enverra du secours. Je n'avais pas achevé ma phrase que j'aperçus sur la table une lettre qu'on avait apportée pendant que nous étions en train de prier. C'était un pli contenant 10 livres pour les orphelins. » Alors la livre sterling à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Voilà, une foi confiante. Hein. Georges Müller, il y en a plein le livre. Hein. C'est son journal de bord. Donc si vous voulez lire « L'audace de la foi » aux éditions Emmaüs. Foi confiante. Alors pour Jaïrus, un autre type de foi, une foi persévérante. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Parfois Dieu répond comme ça, on a un problème et Dieu répond, d'accord, comme il veut, à l'allure où il veut. Parfois, il va nous amener à persévérer et Jésus va l'encourager. Il va lui dire « Sois sans crainte, crois seulement » et il va permettre que la femme puisse être aussi un puissant facteur d'encouragement. C'est la foi persévérante. Et pour nous, bah oui, l'application pour nous, c'est comment je fais pour surmonter ma peur. La peur, c'est une émotion, d'accord ? C'est une émotion. Une émotion, c'est positif. Hein. Le week-end dernier, on avait la clôture de notre cycle de formation Devenir un disciple émotionnellement sain. On a beaucoup parlé des émotions et notamment de la peur. Et donc, la peur, c'est une émotion qui est en relation avec le futur. Alors, j'ai pris le temps peut-être de vous extraire quelques éléments pour que vous compreniez bien ce mécanisme-là. Alors, il y a le passé, il y a le présent et le futur. D'accord ? Ça, c'est la ligne de temps. La peur, c'est une émotion du présent qui est en relation avec le futur. C'est un événement du futur, d'accord, qui vient nous impacter dans le présent. Et une émotion, ce n'est pas négatif. On dit souvent les émotions négatives. Non, il n'y a pas d'émotion négative, c'est neutre une émotion. D'accord ? Mais c'est le fantasme derrière, l'idée qu'on va se faire du futur, qui va générer la peur. Et la Bible, par rapport aux émotions de base, qui sont la peur, la colère, la tristesse et la joie, les 4 émotions de base, qui sont en relation avec cette échelle de temps. Je n'ai pas le temps d'étudier aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, bah venez faire le cycle de formation et vous en apprendrez, et vous vivrez surtout des choses très intéressantes. Et donc, la foi, c'est un remède à la peur. La peur est une émotion en relation avec le futur et la foi est le remède à la peur. C'est le remède biblique à la peur. Parce qu'on va utiliser le passé, notre passé, le passé du peuple d'Israël, notre connaissance de Dieu, pour alimenter notre peur et la contrecarrer. La foi est un antidote à la peur. Et la peur est une émotion, je vous dis, qui est générale. Pourquoi ? Parce que la peur est entrée dans le monde avec la chute. La première chose qu'Adam et Ève ont fait, ils se sont cachés. Et Adam va confesser devant Dieu, je me suis caché parce que j'ai eu peur. Voilà. La peur est entrée dans le monde avec le péché. Hein, on revient au péché, ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord ? Donc la peur est une émotion normale, d'accord ? Simplement, c'est une émotion, c'est un signal qui nous alerte, il y a quelque chose. Parfois, le signal va dépasser. Quand je commence à fantasmer en me disant « Oui, mais ma fille va mourir. » Elle n'est pas morte, ma fille va mourir. Je commence à me faire du souci. Et justement, la foi, elle est là pour nous aider. Je vais m'appuyer sur quoi ? Je vais m'appuyer sur ce que je connais de Dieu, sur ce qu'il a fait dans ma vie, sur le témoignage de mes frères et sœurs. Et c'est comme ça que je vais contrecarrer la peur. Ok ? Voilà, donc très simplement, alors la foi, je ne vais pas faire un cours sur la foi parce que ce n'est pas le but, je ne vais pas faire un cours théorique, je préfère partir du texte pour vous expliquer les éléments clés. Mais la foi, si je voulais la résumer en deux mots, c'est l'abandon total et la soumission à Jésus. Et d'ailleurs, ce matin, pour ceux qui lisent l'exhortation du calendrier, il y avait une lecture de Hébreux 5 où il est dit « Jésus a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu ». Vous voyez, donc c'est quand je m'abandonne, quand je lâche prise, quand je me soumets à Jésus, hein, c'est moi qui vous dis ça, j'ai parfois du mal, et même souvent du mal. Mais pourtant, c'est ce que la Bible nous dit, c'est « soumettez-vous à Dieu ». Voilà, c'est ça en fait la foi. La foi, elle ne vient pas sur nous par hasard, ce n'est pas des trucs et astuces pour augmenter de 10, 20, 30% la foi, c'est « je m'abandonne totalement à Jésus », c'est ce qu'a fait la femme. Elle était au bout du rouleau, elle s'est abandonnée à Jésus. C'est ce qu'a fait Jaïrus, il était au bout du rouleau, il s'est abandonné à Jésus. Alors, cette leçon à retenir et je vais conclure. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce texte ? Vous pourrez prendre la diapo à la fin si vous voulez. Alors, première leçon à retenir, c'est normal d'avoir peur. Ça fait partie de notre constitution, d'accord ? Mais la peur est une émotion qui n'est pas négative et il faut savoir la traiter correctement par le moyen de la foi. Deuxième élément, seuls ceux qui osent braver leur peur peuvent venir à Jésus par un acte d'abandon et de soumission. C'est ça la définition de la foi. La troisième chose, c'est que la foi, elle ne s'apprend pas dans les livres, ni par une prédication. Hein, un super prédicateur qui va vous faire des grandes envolées lyriques sur toute la théorie de la foi, ça ne servira à rien, parce qu'elle s'apprend au creuset de l'épreuve. Hein, elle se vit au quotidien. Et dans le quotidien où notre foi est mise en jeu, on a toujours deux solutions. Soit on va blâmer le Seigneur. « Ah, Seigneur, pourquoi tu permets ça ?» Le point levé. C'est ce qu'ont fait les disciples dans la barque. « Seigneur, mais tu ne te soucies pas que nous périssons là ? Qu'est-ce que tu fous ?» Donc soit on va blâmer le Seigneur, soit on va persévérer. Et c'est ce qu'a fait Jaïrus, et c'est ça l'enseignement du texte. C'est que la femme, elle a la foi confiante pour venir à Jésus, elle est guérie, elle témoigne, elle donne un exemple à tout le monde. Jaïrus, il vient avec une foi, mais qui est ébranlée, et il reçoit un encouragement de la femme pour aller plus loin. Et les deux sont glorifiés, enfin, ils ne sont pas glorifiés, les deux sont exaucés, et Jésus est glorifié. Moi, je trouve que c'est extraordinaire ce texte, il est d'une pédagogie, mais limpide. Quatrième leçon à retenir, il y a beaucoup de personnes qui ont touché Jésus ce jour-là, noyées dans la foule des professants, des religieux, des hypocrites, des gens qui traînent sur le banc des églises, qui ne progressent pas, qui ne lisent pas leur Bible. Il y en a plein des gens comme ça. Il y en a beaucoup qui touchent Jésus, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont guéris, qui sont exaucés, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent s'abandonner et se soumettre à Jésus. Et je voudrais vous encourager à être de ceux-là, et pas de ceux qui ont touché Jésus comme ça par hasard et qui n'ont rien eu. Cinquième leçon, la vérité qui est confessée aux pieds de Jésus permet de trouver la paix et la guérison corps, âme et l'esprit. Soyons dans la vérité, arrêtons d'être hypocrites, arrêtons de faire semblant que tout va bien, que je n'ai pas peur, que si, que ça, de nous trouver des excuses. Sixième leçon à retenir, chaque personne qui appartient à Jésus-Christ a une histoire unique à raconter, ça s'appelle un témoignage, qui peut encourager d'autres personnes dans la foi. Et enfin, la dernière leçon, c'est que Jésus est le seul qui puisse transformer une situation désespérée et dramatique en joie pour sa seule et unique gloire. Et je voudrais vous citer une autre citation, je prends encore un peu de temps, une autre citation qui est extraite d'un deuxième livre qui est extraordinaire, qui s'appelle « L'aventure de la foi ». C'est le témoignage d'Hudson Taylor, missionnaire en Chine. Il a créé rien de moins que la mission intérieure en Chine, et aujourd'hui il y a 100 millions de chrétiens en Chine, alors qu'il n'y en avait pas, il y en avait quelques-uns, quelques hypocrites sur les côtes quand les Anglais étaient là. Et donc voilà ce que dit dans ce livre Hudson Taylor, c'est plutôt son ami, qui s'appelle John McCarthy. Je vais vous lire un extrait. Comment donc, c'est John McCarthy qui écrit une lettre d'encouragement à Hudson Taylor. Comment donc notre foi peut-elle être augmentée ? Simplement en réfléchissant à tout ce que Jésus est et à tout ce qu'il est pour nous, en faisant de sa vie, de sa mort, de son œuvre, de lui-même, tel qu'il nous est révélé dans sa parole, le sujet constant de nos pensées. Il ne s'agit pas de lutter pour avoir la foi, mais de regarder à celui qui seul est le fidèle et de nous reposer entièrement sur le bien-aimé pour le temps et pour l'éternité. Et je vais arrêter là. Prions. Notre Dieu, je dois reconnaître que j'ai vraiment besoin de retenir cette leçon parce que devant l'adversité, parfois ma foi est inexistante. Je ne veux même pas parler chancelante, je dis inexistante. Et Seigneur, je t'en demande pardon parce que tu as tout fait pour moi, tu es mort pour moi, tu es ressuscité pour que j'aie la vie éternelle et tu l'as fait aussi pour chacun de mes frères et mes sœurs. Seigneur, j'ai besoin de toi pour comprendre l'essence même de ce qu'est la foi. J'ai besoin de le mettre en pratique. Seigneur, il n'y a que toi qui puisses m'aider. Je te prie aussi pour tous mes frères et sœurs ici présents qui luttent avec le doute, avec la peur, avec l'incompréhension, que tu puisses éclairer aussi leur cœur. Et je te prie pour tous mes frères et sœurs dans le monde qui souffrent au quotidien, qui souffrent de la guerre, qui souffrent de la famine et de la misère. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Tu es le sauveur du monde. Aie pitié de nous. Amen.